cet été, le premier ministre vietnamien nous a cité en exemple en disant, voilà, c'est une entreprise vraiment ancrée au Vietnam qui valorise les matières premières et qui arrive à en faire un produit premium. Pas besoin d'aller chercher des produits made in France. On a nos produits made in Vietnam qui sont très bons, voire meilleurs.
Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire.
Je suis Brieux Saffré.
Je suis Justine Laurent.
Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design Circulab. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires.
Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes.
Vous pouvez nous retrouver sur le site circulab.com ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative.
Bonne écoute à vous.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu original car on va parler d'une histoire familiale en Asie du Sud-Est. Et donc, je suis très content aujourd'hui d'accueillir dans ce podcast Sophie Boyadian. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter, puis présenter évidemment ton parcours, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, je dois dire que je suis maman de 3 garçons et cela influence mes choix au quotidien. Je suis passionnée de nature, voyage et surtout un mode de vie sain et actif. Je suis savoyarde, j'ai grandi au Nigeria, j'ai traversé l'Afrique en Lada avec mes parents, j'ai vécu au Mexique, en Inde, en Roumanie, à Chypre, à Dubaï et maintenant je suis basée à Singapour, la ville état jardin. Et donc j'ai rejoint l'aventure familiale des Vergers du Mékong qui a commencé par une étude de marché que j'ai réalisée en tant qu'étudiante en 98. Ça date un peu et cette étude de faisabilité en fait a permis la création 2 ans après par mon père des Vergers du Mékong. De mon côté, j'ai continué mes études, fait ma propre expérience en Roumanie puis à Chypre et finalement il y a 10 ans, j'ai décidé de rejoindre l'entreprise familiale au Vietnam sans vraiment m'expatrier au Vietnam, mais dont j'étais en fait actionnaire et j'ai travaillé comme ça sur des grands chantiers à partir de l'étranger. Et donc j'ai commencé à travailler avec mon père, cet alpiniste et homme de conviction.
On va y revenir. Et donc, justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Donc, tu disais, effectivement, tu avais commencé, donc j'imagine, pendant ton parcours étudiant avec cette première étude de marché en 98. Et puis, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 10 premières années avant de rejoindre, finalement, les Vergers du Mékong?
Alors, j'ai travaillé pour l'ambassade de France en Inde. Et puis après, je suis rentrée dans la finance. Et j'ai fait 7 ans au sein de la Société Générale. Donc, j'étais d'abord en Roumanie, puis à Chypre. Et après, j'ai vraiment voulu donner un sens à ma vie, à mon travail et m'épanouir dans ce que je faisais. Et donc, c'était le choix le plus naturel et le plus simple de rejoindre mon père. Je me suis tout de suite attelée à 3 grands chantiers dans l'entreprise.
Et justement, si j'ai bien compris, cette prise de conscience ou ce changement de cap, c'était en 2008. Je suppose que la crise de septembre 2008 n'y est pas trop étrangère.
Alors, pas du tout. C'était vraiment un choix personnel. Okay. Il y avait des changements dans l'organisation en local et puis surtout des prises de décision familiales où je devais continuer à être expatriée et bouger de pays en pays. Et voilà, la politique bancaire ne me plaisait pas. Ouais. Je cherchais à plus de sens à ma vie.
Ouais, d'accord.
En fait, il y a très longtemps que je voulais rentrer dans l'entreprise, hein, depuis le début, depuis qu'il l'avait fondée. Mais je voulais aussi arriver dans l'entreprise et apporter quelque chose. C'est-à-dire que si j'ai fait 7 ans en finance, c'était aussi pour apporter quelque chose à l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on présente un dossier à un partenaire, aux banques, j'ai cette expertise grâce à cette expérience en finance.
Tout à fait. Et justement, avant de nous présenter plus en détail justement les vergers du Mékong, est-ce que tu peux nous présenter le parcours un peu de ton père?
Tout d'abord, donc, pour présenter mon père, Jean-Luc Voisin, c'est un Savoyard, un alpiniste. Il a gravi plusieurs sommets au Népal, dont des sommets vierges. Son prochain projet est d'aller à la source du Mékong, donc sur les plateaux du Tibet, dans des régions très très reculées. Donc là, il fait des demandes de visa. Et bien sûr, au passage, il va faire un sommet vierge, encore une fois, et peut-être pouvoir le nommer. Donc c'est pour la partie, on va dire, explorateur. Sinon, il a 20 ans d'expérience dans l'agroalimentaire et dans des pays en voie de développement sur tous les continents, Amérique latine, Afrique, Asie, et même Russie et tous les stands, avec une première expérience chez Nestlé. Et puis après, il a travaillé pour des organisations comme la FAO ou l'Union européenne. Et il a dirigé aussi une entreprise spécialisée dans la vente d'usines clés en main pour la transformation de fruits et de produits laitiers et soja. Et donc, il est allé sur des pays qui ne sont pas forcément, on va dire, touristiques. Il allait donc au Rwanda. Il était son premier projet était un projet au Liban pendant la guerre du Liban. Il a travaillé au Nigeria. Il a parcouru un peu tout le monde. Il a fini aussi par des destinations sympathiques. En Amérique latine, en Amérique centrale. Ouais. Mais quand il a fallu donc poser ses valises, il a choisi le Vietnam.
Maintenant, ben justement, après tout ce parcours assez exceptionnel vis-à-vis, enfin, de ton père, j'entends, même si le tien est tout aussi exceptionnel, et voilà. Mais justement, qu'est-ce qui lui a fait choisir le Vietnam, et surtout, on va y venir. Enfin, pour quel projet finalement?
Donc c'était en fin 99, début 2000, le projet familial donc de mon père et puis avec ma mère et mon petit frère, j'ai un petit frère aussi. C'était donc de trouver un pays où il pouvait monter une usine, un projet agroalimentaire, plutôt déjà avec une idée de développement durable. Donc un pays aussi où il pouvait y avoir une éducation assez bonne pour mon petit frère, la sécurité. Et surtout, un marché local en croissance. Donc, le premier objectif, c'est l'Argentine. Malheureusement, en 2000, il y a eu une grosse crise en Argentine. Donc, il s'est tout de suite retourné vers l'Asie. L'Afrique n'a pas... on avait passé plusieurs années en Afrique, mais ça faisait pas partie des choix. En Chine, ma mère ne voulait pas vraiment s'expatrier là-bas, trop grand, trop différent, trop difficile à s'intégrer. En revanche, le Vietnam plaisait à tout le monde. Le Vietnam étant un gros producteur de fruits, mon père pouvait vraiment monter une société de transformation de jus et de confiture. Et surtout, s'installer au Vietnam était quand même plus simple que d'autres. Même si le pays venait juste de s'ouvrir en 2000.
Ouais, effectivement, j'ai eu la chance d'y aller. Il y a quand même pas mal d'épisodes encore douloureux dont on se doute pas forcément avant d'arriver sur place. Mais c'est vrai que les faits sont assez récents et la fin de la guerre du Vietnam, c'est finalement il y a 40 grosses années finalement. Mais il y a encore pas mal de signes sur place qui montrent que évidemment c'était hyper marquant et que le pays a encore pas mal de cicatrices, quoi.
Le pays a beaucoup souffert de la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam, mais les Vietnamiens se sont relevés. C'est-à-dire que pour donner un exemple très simple, dans la langue vietnamienne, il n'y a pas de passé, de temps passé. Les Vietnamiens regardent vers le futur. Donc aujourd'hui, vous avez aussi bien des Français, des Américains, des Australiens qui viennent faire du business au Vietnam et il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que le Vietnam est vraiment tourné vers l'avenir et donc ils accueillent à bras ouverts les investisseurs. L'aventure des vergers du Mékong a commencé il y a 18 ans. Alors c'est sûr qu'en 2000, mon père était plutôt un aventurier quand il a décidé d'installer son atelier de transformation au cœur du delta du Mékong. Mais aujourd'hui, il y a plus d'entreprises étrangères, notamment asiatiques, coréennes, qui viennent s'installer au Vietnam et elles sont accueillies à bras ouverts.
Ouais. Et justement, l'idée initiale, comme tu la présentes de ton père, c'était justement faire un projet de transformation. Et pourtant, l'entreprise s'appelle les Vergers du Mékong. Donc, comment ça s'est passé?
Alors, l'idée, en gros, c'est le Mékong, c'est vraiment le grenier à fruits du Vietnam. On pouvait tout trouver. L'idée était de développer une gamme locale de produits sains et premium pour le petit déjeuner des hôtels et resorts de la région. Alors, c'est vrai qu'en 2000, il y avait très peu d'hôtels au Vietnam, Laos, Cambodge. Mmh. Mais il a bien fait de parier là-dessus parce que finalement, aujourd'hui, nos jus, confitures, cafés et thé se retrouvent dans tous les resorts et hôtels de la région.
Donc il y avait tout cet aspect de transformation, mais il a bien fallu produire les fruits et puis tout ce qui était café. Comment ça s'est passé sur cet aspect-là?
Alors, comment résumer ces 18 ans de sourcing? En fait, en amont, ça a été un gros travail. Donc, on parle de développement local parce que mon père, donc déjà il a l'atelier du Mékong à Quantieu, une ville qui est desservie par différents arroyos. Notre usine même reçoit des fruits sur des petits bateaux en bois du producteur qui est un peu plus loin sur une petite île. Donc la traçabilité effectivement des produits a toujours été une priorité. Et quand on parle de traçabilité, on parle donc de production des fruits. Et pour le Vietnam, on parle de multitude de petits producteurs. Et donc, au Vietnam, on travaille aujourd'hui, alors on travaillait en 2000 avec une vingtaine de producteurs, puis de 20, c'est parti à 50. Et aujourd'hui, 2000 producteurs travaillent avec nous, avec en moyenne 2 hectares de terrain. Donc, c'est un réel défi d'avoir une traçabilité sur autant de familles de fermiers. Parce que quand on parle d'une ferme, en fait, c'est une famille de fermiers. Et l'idée a toujours été, depuis 2000, c'est d'intégrer ces fermiers dans nos chaînes de valeur agricole. C'est-à-dire que ce qui est bon pour nous, avoir des bons produits pour les hôtels, il faut que ce soit aussi bon pour eux.
Ouais.
Et donc, on a tout de suite travaillé en direct, et en toute transparence avec les producteurs, et afin de mettre en place une relation sur le long terme et surtout qui respecte nos standards, c'est-à-dire pas de pesticides, une agriculture respectueuse de l'environnement. On les accompagne aussi, certains, pour un processus de certification, comme la Good Agricultural Practice. On les aide à trouver des solutions naturelles des problèmes, par exemple les problèmes d'insectes. On va leur proposer des pièges avec de la phéromone. Mm-hmm. Pour les problèmes de désherbants, pas citer le problème du Roundup, on propose l'utilisation de cover crop. Toutes ces formations, en fait, au cours des 18 années, permet d'avoir des produits aujourd'hui sans pesticides. C'est-à-dire que tous nos jus, nos confitures, le fruit, ont zéro résidu de pesticides. Je pense pas que si on prenne un jus même organique, bio, certifié en France, on puisse trouver zéro résidu de pesticides. C'est vraiment, c'est assez unique. Mais c'est un réel travail avec une équipe complète de qualité depuis 18 ans sur le terrain qui forme les fermiers.
Et justement, tout cet aspect exigence de qualité, et puis surtout partage du savoir. Tu as parlé du fait que vous donniez des conseils, des formations, etc. Comment ça s'est mis en place? Parce que c'est pas forcément quelque chose qui peut paraître évident. C'est-à-dire, si on se positionne un petit peu à votre place, on se dit, bah voilà, on est transformateur, etc. Comment vous en êtes venu à cette idée de, bah voilà, c'est de la valeur partagée dans le sens où il faut que nos produits soient bons, mais ils soient bons aussi pour nos clients. Bah ça, c'est évident, mais pour les fournisseurs, ça c'est quand même une démarche qui, il y a 18 ans, était assez avant-gardiste. Qu'est-ce qui explique un petit peu ce parti pris à cette époque-là?
Ah, ben, déjà, c'est la protection des écosystèmes, la protection de la biodiversité, protection des fermiers eux-mêmes. Hein, parce que quand on, effectivement, il y a 20 ans, quand on arrivait, 18 ans, quand on arrivait sur une ferme, on pouvait très bien trouver des produits phytosanitaires écrits en chinois. Et quand on demandait aux fermiers qu'est-ce que c'est, ils ne savaient même pas. Les Italiens ne parlent plus du tout et ne parlent pas chinois. Donc, c'était vraiment dans l'idée de si on voulait développer notre entreprise, il faut qu'on développe la région, le Mékong. Les vergers du Mékong, notre nom, c'est vraiment symbolique. C'est, voilà, on est au cœur de cette région. Et quand on parle des vergers du Mékong, c'est vraiment Vietnam et Cambodge. Alors après, c'est vrai que c'est passé par différentes structures aussi. On a dû créer trois différents centres de formation et de collecte. Donc, tout au long du Mékong, on a, donc ces centres permettent donc une première collection, première sélection des fruits avec ceux qui vont aller sur le marché, on va dire, des fruits de table. Et puis après, nous, on peut prendre les autres. Mais bon, ça, c'est vraiment au tout début de la sélection. Et après, surtout, on les forme. On les forme parce que ça, c'est une grosse formation et changement des mentalités pour avoir des produits propres.
Parce que tu veux dire qu'il y a des habitudes, comme tu le montrais avec l'exemple des produits chinois qui étaient là, il y a des habitudes un petit peu... d'agriculture chimique qui ont été prises mais qui ne sont pas vraiment expliquées et qu'il est difficile d'enlever comme ça du terrain?
Alors au Vietnam, on a la chance, finalement, comme le Vietnam était fermé, on a très peu sur les petites productions de grosses entreprises qui sont arrivées entre 2000 et 2005. Donc avant ces périodes, ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas l'argent d'acheter des pesticides. Donc c'est pour ça que les terres sont assez propres. On a de la chance. Mmh. C'est pas pareil sur le riz ou les noix de cajou. Là, il y a d'autres problèmes avec les pesticides. En revanche, nous, de notre côté, ce qu'on a vu, c'est que les grands groupes, sans les nommer, ils se reconnaîtront, en arrivant en 2005, 2008 et aujourd'hui. Aujourd'hui encore, ils vont proposer des molécules qui sont interdites en Europe et aux États-Unis, mais qui vont finir de les écouler dans des pays comme le Vietnam. Donc là, c'est vrai qu'on se bat en direct, hein, avec ces groupes qui sont parfois européens, et c'est bien triste. Et on essaye de leur faire comprendre qu'il y a une autre façon, de faire de l'agriculture. Et aujourd'hui, il faut changer. Et il faut aller vers de l'agroécologie, et c'est possible. Quand on voit qu'aujourd'hui, on travaille avec 2000 familles qui vivent très bien, certains même envoient leurs enfants en études en Australie, enfin, je veux dire, il y a une réelle richesse en faisant de l'agroécologie, en faisant même avec des petites exploitations, on peut créer de belles richesses. Nous, nos produits sont des produits premium. À partir de petits producteurs, on se retrouve sur les plus belles tables au Vietnam, au Laos, au Cambodge et même ici à Singapour. Donc c'est ça, c'est une réelle réussite qui commence à être perçue aussi par les Vietnamiens. C'est-à-dire que cet été, le premier ministre vietnamien nous a cité en exemple en disant « Voilà, c'est une entreprise vraiment ancrée au Vietnam qui valorise les matières premières et qui arrive à en faire un produit premium. Pas besoin d'aller chercher des produits made in France. On a nos produits made in Vietnam qui sont très bons, voire meilleurs.
Ouais, tout à
Mais
fait.
Alors après, ça vient avec une certaine implication. On a, c'est vrai, beaucoup investi en amont, peut-être un petit peu moins, voire beaucoup, beaucoup moins en marketing. C'est un petit peu le revers de la médaille.
Oui, après, tu sais, le meilleur Marketing, souvent, c'est la qualité du produit et l'expérience qu'on donne et qui va faire que les gens vont trouver ça remarquable et vont en parler autour d'eux. Et visiblement, c'est ce qui a l'air d'être le cas. Si même le premier ministre vietnamien en parle, c'est quand même une belle preuve.
Oui, c'est vrai. Et puis, c'est vrai qu'on essaie de passer donc à l'étape suivante. L'étape suivante, donc toujours cette idée de transparence avec les fermiers. On a mis en place, on a créé une application smartphone avec une start-up allemande pour en fait avoir une traçabilité complète, mais quelque chose qui aide aussi le paysan. C'est-à-dire que le paysan, il va avoir des données concrètes sur son champ, une géolocalisation. Le paysan va pouvoir savoir quand est-ce que ses goyaves sont mûres, quand est-ce qu'il pourra les livrer au centre de collecte le fruit. Et après ça, donc combien sont vendus, le prix. Et surtout, en fait, s'il a un problème sur sa plantation, par exemple une arrivée de mouches ou quelque chose, il peut nous envoyer directement un message via l'application et nous, on sera en mesure de lui envoyer une solution, on va dire, naturelle, saine pour son problème. Et ça, c'est le gros plus pour être tout de suite là dans la solution naturelle, parce que c'est dans ces moments d'hésitation où il peut y avoir un mauvais voisin, une mauvaise rencontre, un mauvais moment et basculer sur des pesticides. Donc, c'est vraiment c'est un outil qui est assez simple d'utilisation et on en profite en fait quand on met l'outil en place. Là, on a acheté encore la semaine dernière 140 smartphones. Quand on les met en place et quand on ferme les fermiers, on refait une formation sur l'agroécologie, une écologie, une agriculture fermière et responsable de l'environnement, respectueuse de l'environnement. Et surtout, comment gérer sa ferme aussi, c'est-à-dire supprimer le plastique, des choses simples, mais personne ne leur avait dit, en fait. Voilà.
Bah ça c'est top. Et justement, est-ce que tu peux nous parler d'une réalisation dont tu seras peut-être la plus fière? Je sais pas, il y a 2000 potentiels exemples manifestement, mais est-ce qu'il y en a une qui peut représenter un petit peu tous ces aspects sociaux, environnementaux, puisque les aspects économiques, j'ai l'impression que ils ont déjà été bien validés de tout ce que tu nous as dit, ce que je veux dire par là. Mais oui, s'il y a un exemple que tu veux nous présenter pour valider aussi tous ces aspects environnementaux et sociaux que vous avez réussi à provoquer sur le terrain.
Alors, sur le terrain, peut-être deux autres exemples. C'est vrai qu'on a deux fermes pilotes aujourd'hui d'agroécologie sur le côté Cambodge du delta du Mékong. Parce qu'au Cambodge, en fait, il y a très peu d'agriculture et de production fruitière. Donc, ce qu'on aimerait, c'est développer le côté cambodgien du delta du Mékong. Et c'est aussi nous permettre, en fait, de mettre en place des solutions qui permettent de résister aux intempéries. Parce qu'avec le réchauffement climatique, on a de plus en plus de sécheresse. Mais à contrario, on a aussi beaucoup plus de pluie et d'inondations. Donc, en fait, on a ces deux fermes qui nous permettent sur une… On a à peu près 23, 26 fruits sur 10 hectares. On essaye de voir quelles sont les solutions et on s'inspire de ce qui se fait au Cambodge. On n'invente pas, hein, mais on a sur place des ingénieurs agronomes qui vont s'inspirer de plusieurs choses, qui vont faire des tests et qui vont voir ce type de cover crop avec des légumineuses marche bien sur ce type de terrain. Mais là où on va plus loin, c'est qu'on parle très peu en fait de la disparition de certains fruits et légumes. Et ça arrive malheureusement. Et on le voit donc au Vietnam, disparition de la goyave violette, d'une certaine… La mangue, en fait, qu'on utilise aujourd'hui dans nos jus de mangue et dans nos confitures de mangue carambole, est en voie de disparition. Ce sont des énormes arbres qui ont 30-40 ans.
Ouais.
Et la mangue vietnamienne, donc d'une mangue sauvage, est assez petite avec un gros noyau au milieu. Forcément, quand on est producteur, on préfère produire des grosses mangues australiennes avec un petit noyau au milieu. Parce que du coup, on peut la vendre plus cher et surtout, elle pousse plus vite. Les arbres sont moins hauts, donc c'est plus facile pour les récolter. Bref, plein de raisons d'abandonner la mangue vietnamienne. En revanche, cette mangue vietnamienne, pour la transformation, elle est beaucoup mieux parce qu'elle n'a pas de fibres. C'est-à-dire qu'elle va pas se décomposer entre l'eau et la pulpe. C'est assez, on ne l'explique pas. C'est vraiment c'est une caractéristique très spécifique à cette mangue. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des nurseries dans nos fermes au Cambodge, mais aussi au Vietnam, pour après redonner ces plants à certains fermiers, pour qu'après ils puissent nous les revendre. Et je pense qu'on a un réel rôle à jouer donc dans le développement en fait la protection. On a un rôle à jouer dans la protection des plantes et des fruits en danger de disparition en fait.
Ouais, bien sûr, un vrai rôle de préservation des espèces pour justement garder cette biodiversité, en l'occurrence végétale, parce que on parle souvent de la disparition d'animaux, etc. Mais effectivement, à force de faire des choix, etc., il y a aussi malheureusement pas mal de variétés végétales qui disparaissent aussi, quoi. Tu avais évoqué deux exemples, est-ce que tu peux nous parler du deuxième ?
Oui, tout à fait. Au niveau de la production, donc l'idée, c'est d'avoir en fait une économie circulaire. Comme toute production, on a des déchets. Alors, nos déchets sont des déchets organiques. Du jus de passion, du jus d'ananas, quand on torréfie du café, il nous reste des déchets de très bonne qualité organique. Et ce qu'on fait, en fait, on produit un compost de très bonne qualité. On produit 240 tonnes de compost tous les ans. Ouais. Qu'on va après redistribuer auprès de nos fermiers et dans nos deux fermes au Cambodge. Donc comme ça, la boucle est bouclée. En utilisant notre compost, ils ne vont pas utiliser d'engrais chimiques. Et après, c'est pour ça qu'on a des produits sans pesticides et surtout qui gardent toute leur valeur nutritionnelle. Et toujours dans cette idée en fait d'économie circulaire, nous consignons, et ça depuis 2000, et nous recyclons toutes nos bouteilles de jus le fruit et tous nos pots de confiture en verre que nous collectons donc dans nos 7 centres de collection dans le pays, enfin au Vietnam et au Cambodge. Et tous les ans, donc on recycle comme ça 20 000 bouteilles et pots. Donc ça fait des beaux.
Tu veux dire, vous réutilisez 20 000 pots.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Il y a un certain critère de qualité. Après, ça passe dans des nettoyages industriels au sein de l'entreprise, au sein de l'usine dans le delta du Mékong. Et après, on réutilise les pots de confiture et les bouteilles.
Et ça, ce système de consigne, j'ai l'impression que ça doit être assez pertinent, notamment vis-à-vis de vos clients hôteliers, non ?
Alors, c'est assez pertinent au niveau de nos clients hôteliers, on va dire européens.
D'accord.
C'est justement, là, il y a encore un travail d'information à faire, parce que c'est vrai que, je veux dire, nos clients type Accor sont assez sensibles. Ils ont une politique environnementale peut-être un peu plus poussée. Ils sont français. Est-ce que c'est le côté francophone? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que on arrive plus à consigner. Et pourtant, on paye la consigne quand les gens ramènent leur pot et leur bouteille. Mm-hmm. Mais c'est encore limité. On aimerait le pousser plus.
Ok, carrément. Et justement, quels sont maintenant les objectifs pour les années à venir pour les vergers du Mékong? Parce que vous avez déjà accompli un beau travail, mais j'imagine qu'il y a encore plein d'ambitions.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a 18 ans, on parlait pas de cette responsabilité sociétale des entreprises. Aujourd'hui, on en prend conscience au niveau de la communauté. Et c'est vrai que dans les années à venir, on a un rôle à jouer en termes d'exemple, parce qu'on est une entreprise associée à la création de bonnes pratiques en agriculture fermière et durable, mais aussi par notre marque Le Fruit, qui est synonyme de santé et production locale. Ce qu'on aimerait faire, en fait, c'est grossir. Et ce qu'on fait au Vietnam, c'est le faire au Cambodge, c'est-à-dire développer une agriculture fruitière au Cambodge, mais surtout conserver une agriculture fermière, durable, une agroécologie pour conserver les écosystèmes et développer au niveau social, je dirais, la région.
Ouais. Et puis j'imagine aussi une certaine idée de résilience au sens large, dans le sens où tu l'as évoqué un petit peu, j'imagine, avec les exemples de fermes où vous essayez de vous adapter un peu au changement dû au réchauffement climatique, c'est-à-dire de plus en plus de sécheresse et inversement aussi de plus en plus d'inondations. J'imagine aussi c'est des objectifs de résilience pour vos 2000 producteurs, non?
Oui, tout à fait. Surtout que le delta du Mékong subit de plus en plus les marées, c'est-à-dire que les marées remontent de plus en plus dans le delta du Mékong et donc il y a de plus en plus de sel dans les eaux du Mékong et ce sel remonte de plus en plus. Et c'est vrai que les productions fruitières qui sont au plus proche de la côte ont dû arrêter et remplacer par de l'aquaculture, par exemple. Et c'est vrai qu'il faut prévoir ce mouvement et aller plus vers le Cambodge pour pouvoir continuer cette agriculture fruitière. Et puis c'est vrai qu'on a on est un exemple aussi pour les produits qu'on crée, parce que on essaye de toujours exploiter les fruits locaux. Donc là, on a été récompensé par notre dernier nectar, qui est un nectar de goyave, fruit du dragon et betterave. Voilà, on utilise vraiment trois fruits et légumes emblématiques du delta du Mékong, et tout cela sans additifs artificiels et gorgé bien sûr de vitamines naturelles. On essaye aussi donc toujours dans cette partie de recherche. Bien sûr, on l'a fait sur le côté agricole, mais on le fait aussi sur le côté produit. On utilise par exemple de l'acérola. C'est une petite cerise rouge. Par exemple, si on cherche à avoir de la vitamine C naturelle en pharmacie, on va nous donner de l'acérola. Nous, on a ces acérolas partout dans le delta du Mékong, ce qui permet en fait de tenir les petites îles. Et cet acérola contient beaucoup plus de vitamines qu'une orange, qu'un kiwi ou autre. Et on l'utilise donc comme antioxydant et conservateur naturel dans nos jus et même dans nos confitures. Donc, on essaye toujours comme ça de trouver avec les ressources naturelles du pays, trouver des petits trucs, on va dire, pour nos produits.
Excellent. Et justement, est-ce que tu as des choses à ajouter sur les vergers du Mékong, des choses qu'on n'aurait pas évoquées, que tu souhaitais partager avec nous?
On n'a pas parlé en fait de nos employés. En fait, les vergers du Mékong aujourd'hui, c'est 150 personnes. Donc quand on a commencé, il y avait 4 personnes, mon père et 3 autres. Les trois autres personnes sont toujours là et elles sont aujourd'hui des directeurs dans l'entreprise, deux femmes et donc. Et c'est vrai que c'est très important quand on parle des vergers du Mékong de parler de l'engagement de nos employés. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir vu grandir chacun des employés par des formations externes ou quoi, de s'être développé, d'avoir changé de métier et puis d'être toujours là après 10-15 ans. Et on est très fiers de ça. Il y a un très très faible turnover chez nous, contrairement à d'autres entreprises au Vietnam ou partout dans le monde. Hein.
Ouais, bien sûr.
Et chez nous... Il y a cette mission, on va dire. Quand ils rentrent au verger du Mékong, on est comme investi d'une mission. On va essayer de promouvoir une vie saine, manger sainement, ne pas polluer, éviter les plastiques. Et c'est vrai que c'est une réelle famille. Et entre nous, quand il y a un immeuble qui brûle ou une inondation, on a toujours une grande aide et on se retourne toujours vers, enfin, les employés se retournent toujours vers l'entreprise. C'est très important.
Cette fameuse raison d'être qu'on a l'habitude d'évoquer chez Wita, effectivement, tu parles de mission, c'est exactement ça. C'est pourquoi finalement les gens se lèvent le matin et rejoignent leur boulot. Bah, c'est pour faire cette grande mission, atteindre cette raison d'être plutôt que de juste récupérer un salaire à la fin du mois, ce qui est nettement plus ambitieux et puis motivant, j'imagine, au quotidien, quoi.
Oui, tout à fait.
Et après, on a une petite tradition dans ce podcast, c'est ben, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu as 3 conseils à donner à ceux qui aimeraient se lancer, que ce soit au sein de leur entreprise ou même pour ceux qui veulent créer leur entreprise, pour se lancer ben, soit dans un projet d'économie circulaire ou même, aujourd'hui ce serait peut-être plus approprié, dans un projet d'agroécologie, puisque je pense que tu es bien placé pour en parler.
Alors, les conseils, je dirais, aujourd'hui les mentalités changent, le monde change, donc votre initiative en est une preuve. Je pense qu'il faut s'orienter vers des projets, on va dire, vert, green, l'écologie, c'est vraiment ce qui marche en ce moment. On est dans la traçabilité, la joie. On a travaillé avec une petite start-up allemande. On était leur premier gros projet. Il y a tout plein d'idées sur cette idée de traçabilité, d'agroécologie, et notamment en Asie, ou comme ici, même à Singapour. Ici, on parle beaucoup des fermes verticales. Il y a énormément à faire et toujours des investissements à trouver, je pense, aussi dans ces domaines. Un deuxième conseil serait de bien choisir ses partenaires. On a souvent, quand on est jeune, envie de faire un partenariat ou de lancer une entreprise avec un ami. C'est bien de trouver de la complémentarité avec son partenaire, quelqu'un qui vous apporte quelque chose. Si vous avez un passé financier, je dirais allez voir quelqu'un qui est ingénieur ou essayez de mixer comme ça les expériences au sein même du partenariat pour qu'il y ait un réel échange et une stimulation, on va dire. Troisième chose, pour monter son entreprise, éviter d'être à 3. Je dirais 2, c'est bien.
Ouais, ça, c'est vrai que... Ouais, ça dépend. Je pense qu'il n'y a pas de règle parfaite sur ça. Mais effectivement, déjà, s'entendre bien à 2 et être complémentaire, t'as raison, c'est déjà une bonne chose. C'est pas toujours évident. Et à 3, j'imagine qu'évidemment, c'est encore plus compliqué. Mais je pense qu'il y en a qui y sont parvenus.
Voilà. Et une dernière chose comme conseil, si l'Asie est au menu, le Vietnam est un super pays pour investir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs au Vietnam, des petits entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, des grosses entreprises qui arrivent sur le marché. C'est un des seuls pays d'Asie où on peut monter son entreprise avec 100% de capitaux étrangers. C'est très facile, si on a un projet clair, précis, de monter son business ici. Et surtout, il y a, je dirais, quand même une communauté, par exemple, des chambres de commerce, notamment européennes et françaises, qui sont très actives. Et c'est, je ne pourrais que conseiller le Vietnam aux investisseurs, aux entrepreneurs et aux éco-entrepreneurs, on va dire.
Et puis j'ajouterais en plus, d'un point de vue perso, je trouve que les Vietnamiens, en tout cas ceux que j'avais eu la chance de rencontrer, sont hyper accueillants et souriants. Et ça, je pense qu'au quotidien, ça doit être sacrément utile. Et en plus, d'un point de vue plus économique, il y a aussi une très bonne éducation aussi au Vietnam. Et je pense que ça permet aussi de faciliter les choses et d'accélérer les projets très rapidement, parce qu'il y a des compétences dans à peu près tous les domaines, quoi.
Tout à fait. Il y a une bonne compétence au Vietnam. C'est peut-être qu'ils parlent, par exemple, mieux anglais aussi que d'autres pays comme la Chine ou le Japon ou autres. Et surtout, le marché intérieur est en croissance. Ça, on peut, quand on est en France, une croissance à deux chiffres, ça fait rêver. Et donc, on a tous les marqueurs économiques ouverts au Vietnam.
Ok. Bah, génial. Merci. Un grand merci, Sophie. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter à tout ça?
Je suis très contente qu'on parle aujourd'hui d'éco-entreprise et d'économie circulaire, parce que quand on a monté l'entreprise, on était plutôt aventurier. Et ça fait très plaisir de voir qu'on n'est pas seul et qu'aujourd'hui, il y a un réel mouvement derrière ces grandes idées.
Bon, bah, ravi de l'entendre en tout cas. Et puis, bah, je te remercie pour ta disponibilité, même si les conditions techniques n'étaient pas au top. Je pense qu'on a un super contenu au niveau du fond en tout cas. Et puis, bah, je te remercie. Je te souhaite bon vent pour la suite des aventures.
Merci. Bonne aventure et à bientôt au Vietnam.
Avec plaisir. Ciao, ciao.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com.
C'était Justine Laurent et Brieux Saffré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.